Chapitre 4 1 Une semaine après, Mabel s'éveilla à l'aube et, dans les premiers instants, elle oublia où elle se trouvait. Elle prononça même tout haut le nom d'Olivier en promenant un regard surpris autour de la chambre. Puis tout à coup elle se rappela et resta immobile. C'était déjà le 8e jour qu'elle passait dans ce refuge. Son temps d'épreuve était fini. Ce jour-là, elle allait être libre de faire ce pour quoi elle était venue. Le samedi de la semaine précédente, elle avait subi l'examen privé devant un magistrat spécial, à qui elle avait confié, sous les conditions habituelles de secret absolu, son nom, son âge, son adresse, ainsi que les motifs qu'elle avait pour demander l'application de l'euthanasie. Elle avait choisi Manchester comme un endroit assez éloigné et une ville assez grande pour la mettre à l'abri des recherches d'Olivier. Et le fait est que son secret avait été admirablement gardé. Aucun indice n'était venu lui révéler que son mari eût la moindre connaissance de ses intentions. Mais au reste, elle savait que dans les cas de ce genre, la police était tenue de prêter assistance aux fugitifs. Dans le nouveau monde socialiste, l'individualisme avait encore conservé ce dernier droit. Les personnes fatiguées de la vie étaient autorisées à sortir de la vie sans empêchement. Et quant à savoir pourquoi elle avait choisi ce moyen-ci pour en sortir, c'est parce que tout autre moyen lui avait paru impossible. Le couteau exigeait à la fois de l'adresse et de la résolution. Les armes à feu étaient hors de sa portée, et les nouveaux règlements de police rendaient plus difficile que jamais l'achat d'un poison. Et puis, en outre, elle désirait sérieusement mettre à l'épreuve ses intentions, et bien s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre issue pour elle. Hors de cela, elle était plus certaine que jamais. La pensée de la mort lui était venue pour la première fois dans l'atroce souffrance que lui avait causée l'éclat de cruauté d'un certain soir de décembre. Puis, cette idée s'en était allée, balayée surtout de son esprit par la pensée que, en effet, l'homme restait encore capable de retours en arrière. Mais ensuite, une fois de plus, l'idée lui était revenue comme un fantôme glacé irrésistible dans le clair jaillissement de lumière projeté sur elle par la déclaration de Felsenburgh. Depuis lors, le fantôme s'était installé à demeure chez elle. Mais elle lui avait résisté, espérant, contre tout espoir, que la déclaration du président ne se traduirait pas en acte, et tâchant à l'oublier, sauf à se révolter par instant, contre son horreur. Mais le fantôme n'avait jamais plus voulu s'éloigner. Et enfin, lorsque la théorie politique s'était changée en une loi délibérée, Mabel, résolument, avait cédé à son appel. Il y avait maintenant 8 jours de cela. Et sa décision, durant 7 semaines, n'avait pas chancelé un seul moment. Cependant, elle avait désormais cessé de condamner. La logique l'avait réduite au silence. Tout ce qu'elle savait était qu'elle-même, pour son compte, ne pouvait pas supporter cela. Qu'elle s'était trompée et avait mal compris la foi nouvelle. Et que pour elle, quoi qu'il en fût des autres, il n'y avait absolument aucune espérance. Ces 8 jours, requis par la loi, s'étaient passés très tranquillement. Elle avait emporté avec elle assez d'argent pour entrer dans une de ces maisons particulières, dont l'installation, luxueuse et commode, correspondait à ses habitudes. Les sœurs gardiennes avaient été aimables et pleines de sympathie. Elle n'avait eu à se plaindre de rien. Sans doute elle avait dû un peu souffrir de réactions inévitables. La seconde nuit, après son arrivée notamment, avait été affreuse. Pendant qu'elle gisait dans l'obscurité brûlante de sa chambre, tout son être sensible avait protesté et s'était débattu contre la destinée que sa volonté lui imposait. Cet être avait réclamé les choses familières, la promesse de nourriture et d'air respirable et de commerce humain. Il s'était tordu d'horreur devant l'abîme noir vers lequel il était entraîné. Et, dans cette angoisse épouvantable, la jeune femme n'avait retrouvé la paix que lorsqu'une voix plus profonde lui avait murmuré, avec un accent surnaturel de certitude, que la mort n'était pas la fin absolue. Et puis, avec la lumière du matin, la santé était revenue. La volonté avait reconquis sa maîtrise, et du même coup avait écarté l'espérance secrète d'une continuation de la vie. Plus tard, elle avait eu à souffrir, deux ou trois fois, d'une peur plus concrète. Le souvenir lui était revenu de ces révélations scandaleuses qui, 10 ans auparavant, avaient convulsé l'Angleterre et amené l'établissement de refuge tel que celui-ci, sous la surveillance du gouvernement. On avait découvert que, durant de longues années, dans les grands laboratoires de vivisection, des expériences avaient été faites sur des sujets humains, sur des personnes qui, ainsi qu'elle-même, s'étaient séparées du monde, et à qui, dans des maisons d'euthanasie privées, on avait administré des gaz, suspendant la vie au lieu de la détruire. Mais cela encore avait passé avec l'avènement de la lumière. Le système nouveau rendait de telles choses impossibles, au moins en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays, car il restait des pays où le sentiment était plus faible et la logique plus impérieuse. Et puisqu'aussi bien il était prouvé que les hommes n'étaient que des animaux, enfin il y avait eu durant cette semaine d'épreuve un inconvénient physique, la chaleur intolérable des jours et des nuits. Les savants affirmaient qu'un courant de chaleur absolument inattendu venait de se produire, et des douzaines de théories avaient été émises, dont le bruit était arrivé jusque dans la retraite de Mabel, et qui toutes se contredisaient réciproquement. Et la jeune femme songeait qu'il était humiliant de voir ainsi accablés et vaincus des hommes qui faisaient profession d'avoir pris la terre sous leur charge. Sans compter que, naturellement, cette condition anormale de l'atmosphère avait été accompagnée de désastres. Un peu partout, il y avait eu des tremblements de terre d'une violence prodigieuse. Une tempête en Amérique avait détruit d'un seul coup 32 cités. Plusieurs îles avaient disparu. Et l'inquiétant Vésuve semblait se préparer pour un dénouement de son aventureuse carrière. Mais l'explication de toutes ces choses, personne ne la connaissait. Il y avait eu un homme assez arriéré pour dire qu'un cataclysme devait s'être produit au centre de la terre. Et Mabel se rappelait que sa nourrice lui avait parlé d'un feu qui brûlerait sous la surface du globe. Au reste, tout cela ne l'inquiétait guère. Elle se désolait seulement de ne pouvoir pas sortir dans le jardin et d'avoir à rester jour et nuit dans la fraîcheur relative de sa chambre, au second étage. Il y aurait bien eu encore un sujet qui l'aurait intéressé, à savoir l'effet produit dans le monde par le décret nouveau. Mais la sœur gardienne ne semblait pas très bien renseignée sur ce point. Ça et là, on avait appris que des exécutions avaient été faites. Mais la loi n'avait pas encore été appliquée dans toute sa rigueur, et les magistrats ne faisaient que commencer le recensement prescrit. Ce matin-là, pendant qu'elle restait éveillée dans son lit, les yeux fixés sur les couleurs délicates du plafond, il lui sembla que la chaleur était pire que jamais. Elle crut même, d'abord, qu'elle avait dormi trop longtemps, mais sa montre à répétition lui dit qu'il était à peine 4 heures. Du moins, elle n'aurait plus à supporter longtemps ce supplice, car elle songeait que c'était vers 8 heures que viendrait pour elle le moment d'en finir. Il y avait encore sa lettre à Olivier qui restait à écrire et 1 ou 2 arrangements à terminer. Pour ce qui était de la moralité de l'acte qu'elle allait accomplir, c'est-à-dire du rapport de cet acte avec la vie commune des hommes, là-dessus elle n'avait pas l'ombre d'un doute. Elle croyait fermement, avec tout le monde désormais, que toute terminaison de la vie, de même que celle-ci, était justifiée par la souffrance spirituelle. Il y avait un certain degré de détresse, à partir duquel l'individu ne pouvait plus être nécessaire à soi-même ni aux autres. Et dans ces conditions, la mort était l'acte le plus charitable qui pût être accompli. Il est vrai que jamais jusque-là elle n'avait songé que cet état pût devenir le sien. La vie, au contraire, l'avait toujours intéressé trop passionnément. Mais les choses en étaient venues à ce point, et maintenant, la nécessité de la mort ne faisait plus question. À plus d'une reprise, durant cette semaine, le souvenir lui était revenu de sa conversation avec M. Francis. Elle avait été poussée à cette visite par un mouvement presque instinctif. Elle s'était sentie prise, tout à coup, d'un besoin de savoir ce qu'était le parti opposé. Et si le christianisme était vraiment aussi ridicule qu'elle l'avait toujours pensé. Ridicule ? Elle voyait maintenant qu'il ne l'était certainement pas, mais bien plutôt au contraire terriblement pathétique. C'était un rêve merveilleux, une délicieuse fantaisie du poète. Et elle se disait que ce serait un bonheur céleste de pouvoir y croire. Mais pour son compte, elle ne le pouvait pas. Non, un Dieu transcendant était pour elle une idée inconcevable, encore qu'elle comprît à présent que l'idée d'un homme transcendant n'était pas moins absurde. Décidément, elle ne voyait aucune issue. La seule religion possible était celle de l'humanité. Il se trouvait que l'unique Dieu était un Dieu avec lequel elle ne voulait plus, ne pouvait plus, avoir rien à faire. Elle se rappelait aussi la très haute opinion qu'elle avait eue de Felsenburgh. À coup sûr, cet homme était le plus grand qu'elle eût jamais vu. Et elle estimait très probable qu'il fût vraiment ce qu'elle avait cru, l'incarnation de l'homme idéal, le premier produit parfait de l'humanité. Mais la logique de sa conduite était trop au-dessus d'elle, car elle se rendait compte désormais qu'il avait été absolument logique, sans l'ombre de contradiction, en proclamant la nécessité d'exterminer les chrétiens, quelques semaines après avoir blâmé la destruction de Rome. Ce qu'il avait blâmé, c'était la passion d'un homme contre un autre, d'une secte contre une autre, chose qui était comme le suicide d'une race. Il avait dénoncé la passion, mais non point l'action universelle et légale. Son décret nouveau était un acte légitime de la majorité du monde contre une infime minorité qui menaçait le principe de la vie et de la foi. Oui, tout cela était logique et nécessaire. Et cependant, c'était à tout cela qu'elle n'avait point la force de se résigner. Aussi, ce qu'elle avait de mieux à faire était-il d'accomplir son projet, le plus tranquillement possible. Après quoi, le monde, sans elle, continuerait sa marche en avant. Elle sommeilla de nouveau quelques instants, et fut toute surprise, en rouvrant les yeux, d'apercevoir un doux visage de femme coiffée de blanc qui, penchée sur elle, lui souriait. « Voici qu'il est 6 heures, ma chère enfant. Le moment où vous m'avez dit de venir. Voulez-vous que je vous apporte le déjeuner ?» Mabel soupira profondément, puis elle se redressa d'un mouvement rapide et se prépara à sortir du lit. 2. 6h30 sonnaient, à la petite pendule de la cheminée, lorsque Mabel acheva d'écrire. Elle recueillit les feuillets qu'elle venait de remplir de sa large écriture, s'adossa dans son commode fauteuil et relut sa lettre. Maison de repos numéro 3, Manchester West. Mon chéri, mon envie m'est revenue, et cette fois avec tant de force, qu'il m'est vraiment impossible de résister plus longtemps, si bien que je vais être obligé de m'en aller par la seule voie qui me reste ouverte. J'ai eu d'ailleurs un séjour très calme et heureux dans cette maison. Tout le monde a été pour moi d'une bonté infinie. L'entête de ce papier, naturellement, t'aura fait comprendre aussitôt de quelle maison il s'agit. Mon chéri, tu m'as toujours été cher par-dessus tout, et tu me l'es encore, en ce moment même. Mais, assurément, je ne me trompe pas en sentant que je n'ai plus de force pour continuer à vivre. D'abord, quand tout cela a commencé, je me suis attendue à ce que ce serait tout autre, et tu sais combien j'ai été heureuse et pleine d'enthousiasme. À présent, je reconnais que ce qui arrive est logique et juste, et que la paix du monde doit avoir ses lois et a le droit de se défendre par tous les moyens. Mais, mon chéri, il se trouve qu'une telle paix n'est pas celle dont j'aurais besoin. Au fond, je crois que mon malheur vient seulement de ce que je suis en vie. Et puis voici une autre difficulté. Je sais combien profondément tu es d'accord avec ce nouvel état des choses. Et il est naturel que tu le sois, étant infiniment plus fort et plus raisonnable et meilleur que moi. Mais si tu as une femme, il faut qu'elle pense et sente comme toi. Et moi, mon chéri, je ne suis plus avec toi au fond de mon cœur, tout en voyant bien que c'est toi qui as raison. Tu me comprends bien, n'est-ce pas, mon amour ? Si nous avions eu un enfant, c'eût été autre chose, peut-être. J'aurais peut-être réussi à continuer de vivre pour l'enfant. Mais cela même me paraît bien impossible. Oh, Olivier, mon chéri, je ne peux pas, je ne peux pas. Je sais que j'ai tort et que tu as raison. Mais voilà, je ne peux pas me changer. Et ainsi, je suis tout à fait sûre qu'il faut que je m'en aille. Et puis, il y a ceci que je désire que tu saches. C'est que je n'ai pas peur, pas du tout peur. Je ne puis pas comprendre comment quelqu'un pourrait avoir peur, à moins bien sûr d'être un chrétien. Oh, si j'étais chrétienne, il me semble que j'aurais une peur affreuse. Mais nous deux, n'est-ce pas, nous savons à coup sûr qu'il n'y a rien au-delà de la mort. C'est de la vie que j'ai peur. Seulement de la vie. Après cela, s'il y avait à souffrir naturellement, j'aurais tout de même un peu peur, mais tout le monde me garantit qu'il n'y a absolument pas l'ombre de souffrance, et que c'est simplement comme si l'on s'endormait. Les nerfs périssent avant le cerveau, si bien que je vais faire la chose moi-même, sans personne d'autre dans la chambre. Dans quelques minutes, ma garde, la sœur Jeanne, avec qui je me suis liée très affectueusement, va m'apporter l'appareil, et puis elle me laissera. Pour ce qui est des suites, tu feras exactement comme il te plaira. La crémation aura lieu demain à midi. Tu pourras y venir si tu veux. Ou bien tu n'auras qu'à téléphoner et l'on t'enverra l'urne. Tu as désiré avoir l'urne de ta mère dans notre jardin. Peut-être seras-tu heureux aussi d'avoir la mienne. Et quant à tout ce qui m'appartient, il va sans dire que je te le laisse. Et maintenant, mon chéri, il y a encore ceci que je veux te dire. C'est que je regrette beaucoup, vraiment, d'avoir été si fatigante pour toi, et si sotte. Au fond, vois-tu, je crois que j'ai toujours été convaincue, dès le début, de la justesse de tes arguments. Mais, toujours, il y avait quelque chose en moi qui me forçait à ne pas vouloir me laisser convaincre. Comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai si souvent agacée ? Olivier, mon chéri, tu as été extraordinairement bon pour moi. Oui, c'est vrai que je pleure, mais en réalité, je suis très heureuse. Je regrette seulement d'avoir été obligée de te causer tant d'inquiétudes durant cette semaine dernière, mais il l'a fallu. Je savais que si tu m'avais découverte, tu m'aurais persuadée de renoncer à mon projet. Et puis, le jour suivant, j'aurais trouvé un autre moyen, bien pire pour moi, comme pour toi. Je regrette infiniment d'avoir fait un mensonge aussi. Je te le jure, c'est le premier que je t'ai fait jamais. Eh bien, il me semble que je n'ai plus autre chose à te dire. Olivier, mon chéri, mon trésor aimé, adieu, je t'envoie mon amour avec tout mon cœur, Mabel. Elle resta immobile, sa lecture finie, et toujours encore ses yeux étaient mouillés de larmes. Et cependant tout cela était parfaitement vrai. Elle était bien plus heureuse qu'elle aurait pu l'être si elle avait eu la perspective de rentrer chez elle. Sa vie lui semblait entièrement dévastée. Et toute sa petite âme aspirait à la mort, comme un corps épuisé aspire au sommeil. Elle écrivit l'adresse d'une main parfaitement ferme, posa la lettre sur la table et s'adossa de nouveau dans le fauteuil, en face de son déjeuner intact. Puis, tout à coup, le souvenir lui revint de sa conversation avec M. Francis, et par une étrange association d'idées, voici qu'elle revit la chute de l'aérien à Brighton, les actes du jeune prêtre aux cheveux blancs, et les boîtes d'euthanasie. Lorsque la sœur Jeanne entra, quelques minutes après, elle fut étonnée de ce qu'elle vit. Mabel était appuyée contre la fenêtre, les yeux fixés sur le ciel, dans une attitude d'horreur indicible. La sœur Jeanne traversa vivement la chambre après avoir déposé quelque chose sur la table et mit sa main sur l'épaule de la jeune femme. « Ma chère enfant, qu'est-ce que c'est ?» Elle entendit un long souffle sanglotant, puis Mabel se retourna, l'étreignit d'une main tremblante, et de l'autre main lui désigna un endroit du ciel. « Là » dit-elle, « là, regardez !»« Eh bien, ma chérie, qu'y a-t-il ? Je ne vois rien. Il fait un peu sombre. »« Sombre ! » s'écria Mabel. « Vous appelez ça sombre ? Mais c'est noir, tout noir !» La garde l'attira doucement en arrière vers le fauteuil. Elle reconnaissait une crise de frayeur nerveuse, phénomène assez habituel dans ces moments de l'effort suprême. Mais Mabel s'arracha de son étreinte et se retourna vers la fenêtre. « Vous appelez cela un peu sombre ? » dit-elle. « Mais sœur Jeanne, regardez, regardez !» Il n'y avait absolument rien de remarquable à voir. Devant la fenêtre, se dressait la cime feuillue d'un frêne. Et puis c'étaient les fenêtres, encore fermées, des bâtiments d'en face, le toit, et au-dessus, le ciel matinal, un peu lourd et poussiéreux, comme avant un orage. Mais rien de plus que cela. « Eh bien, qu'y a-t-il, ma chère enfant ? Qu'est-ce que vous voyez ?»« Mais regardez, regardez donc ! Et maintenant, écoutez ceci !» Un grondement vague, lointain, se fit entendre, comme le roulement d'un camion. Si vague qu'on aurait pu le prendre pour une simple illusion de l'oreille. Mais la jeune femme s'était bouché les oreilles des deux mains, et son visage était devenu un masque blanc de terreur, avec d'énormes yeux effarés. La garde l'embrassa tendrement d'un geste maternel. « Ma chère enfant, lui dit-elle, vous êtes un peu énervée. Cela n'est rien qu'un petit grondement de tonnerre, produit par la chaleur. Je vous en prie, ne vous agitez pas. » Elle sentit le corps de la jeune femme trembler convulsivement sous ses mains, mais elle put, sans résistance, la réinstaller au fond du fauteuil. « Les lumières ! Les lumières !» sanglotait Mabel. « Et vous allez me promettre de vous calmer, n'est-ce pas ?» Elle promit d'un signe de tête, et la garde se dirigea vers un coin de la pièce, avec un bon sourire indulgent. Combien de fois, déjà, elle avait assisté à des scènes analogues ? Dès l'instant suivant, toute la chambre fut ensoleillée d'une exquise lumière. Mais la garde, en se retournant, vit que Mabel avait rapproché son fauteuil de la fenêtre, et les mains tordues recommençaient à considérer le ciel par-dessus les toits. « Ma chère enfant, lui dit-elle, vous êtes au bout de vos nerfs. Voulez-vous que je ferme les volets ?» Mabel leva les yeux sur elle. « Oui, certes. » La lumière l'avait sensiblement rassurée. Son visage restait toujours blême et égaré, mais ses yeux reprenaient une expression plus tranquille. « Sœur Jeanne, dit-elle d'une voix défaillante, je vous en prie, regardez encore, et dites-moi si vous ne voyez rien. Si vous me dites qu'il n'y a rien, je croirai que c'est moi qui deviens folle. » Mais non, il n'y avait rien. Le ciel était un peu sombre, comme si une tempête se préparait, mais on distinguait tout au plus un voile de nuages, et la lumière était à peine légèrement teintée de taches foncées. C'était exactement le ciel qui précède un gros orage printanier. Et la garde le dit à Mabel clairement, résolument. Le visage de la jeune femme se rasséréna plus encore. « Merci, sœur Jeanne. Alors ?» Elle se tourna vers la petite table sur laquelle la garde avait déposé ce qu'elle venait d'apporter. Alors, s'il vous plaît, montrez-moi. » Mais la garde hésitait. « Êtes-vous sûr de n'être pas trop épouvanté, mon enfant ? Voulez-vous prendre quelque chose ?»« Non, je ne veux plus rien d'autre, » dit nettement Mabel. « Montrez-moi, je vous prie. » La sœur Jeanne s'approcha de la table. Ce qu'elle y avait déposé était une cassette de métal blanc, délicatement peinte de fleurs, et d'où émergeait un tube blanc, flexible, avec une large embouchure, accompagné de deux griffes d'acier, tandis que sur l'un des côtés de la cassette était fixée une poignée en porcelaine. « Eh bien, ma chérie, » commença doucement la garde, tout en épiant la façon dont les yeux de Mabel se tournaient sans cesse vers la fenêtre. « Eh bien, vous allez vous asseoir là, comme vous êtes à présent, la tête un peu en arrière, s'il vous plaît. Quand vous serez prête, vous mettrez cette embouchure contre vos lèvres et vous attacherez ces deux ressorts derrière votre tête, comme ceci, tenez, cela s'adapte très simplement. Et puis, vous tournerez cette poignée dans ce sens-là, et voilà tout. » Mabel fit signe qu'elle comprenait. Elle avait entièrement reconquis son empire sur soi et avait pu écouter très attentivement, bien que sans cesse encore, malgré elle, ses yeux se détournassent du côté de la fenêtre. « Voilà tout, » répéta-t-elle, « je comprends parfaitement. Et ensuite ?» La garde la dévisagea un moment, d'un regard inquiet. « Ensuite, il n'y a plus rien. Respirez tout naturellement, vous vous sentirez prise de sommeil, presque aussitôt. Alors vous fermerez les yeux, et voilà tout. » Mabel reposa le tube sur la table et se releva. Elle était tout à fait redevenue elle-même. « Embrassez-moi, sœur Jeanne, » dit-elle. Sur le seuil, la garde se retourna et lui sourit une fois encore. Mais Mabel s'en aperçut à peine. De nouveau, maintenant, elle n'avait plus d'attention que pour la fenêtre. « Je reviendrai dans une demi-heure, » dit doucement sœur Jeanne. « Rien ne presse, rien absolument. Le tout ne prend pas même 5 minutes. Adieu, ma bien chère enfant. » Mais Mabel continuait à regarder au dehors, par la fenêtre, et la laissa sortir sans lui répondre. 3. Mabel attendit que la porte se fût refermée et que la garde en eût enlevé la clé. Après quoi, une fois de plus, elle revint à la fenêtre et en saisit convulsivement la barre d'appui. De l'endroit où elle se tenait, elle apercevait d'abord la petite cour, au-dessous, avec ses quelques arbres, vivement éclairés par l'éblouissante lumière électrique qui jaillissait maintenant de la chambre. Et en second lieu, par-dessus les toits, une immense et terrible étendue de noir, à peine teintée de roux. Et le contraste de ces deux spectacles avait quelque chose d'effrayant. C'était comme si la terre fût encore capable de lumière, alors que déjà le ciel se serait éteint. Mabel eut aussi la sensation d'un silence et d'un calme extraordinaire. La maison, habituellement, était assez tranquille à cette heure matinale, ses hôtes n'ayant guère l'humeur à faire beaucoup de bruit ni de mouvement. Mais ce matin-là, c'était plus que de la tranquillité. C'était un silence de mort, un de ces moments d'arrêt général qui précèdent l'éclat soudain des tempêtes du ciel. Et voici que les instants passaient, sans que se produisît un éclat de ce genre. Une seconde fois seulement, Mabel entendit retentir un roulement solennel, comme si un énorme wagon avait traversé une rue lointaine. Et il sembla à la jeune femme, très nettement, qu'à ce bruit de roues se mêlait un murmure de voix innombrables, criant, chantant et applaudissant. Après quoi, de nouveau, ce fut comme si le monde s'était tapissé de ouates, un silence, une immobilité extraordinaire. Et Mabel, à présent, commençait à comprendre. L'obscurité, les bruits, n'étaient point pour tous les yeux et toutes les oreilles. La garde n'avait vu ni entendu rien d'anormal, et sans doute le reste du monde ne voyait ni entendait rien de tel, Pour eux, cela signifiait tout au plus l'approche possible d'un orage. Mabel, cependant, n'essaya pas de faire la distinction entre la part subjective et la part objective dans ce qu'elle sentait. Elle ne se demanda pas si ce qu'elle voyait et entendait était engendré par son cerveau ou bien perçu au moyen d'une faculté inconnue jusqu'alors. Elle eut simplement l'impression d'être déjà séparée du monde qu'elle habitait la veille encore. Ce monde s'écartait d'elle, ou plutôt changeait en elle, passait à un autre mode d'existence, de telle sorte que l'étrangeté de ces ténèbres et de ce silence ne la surprit pas beaucoup plus que celle, par exemple, de la petite boîte peinte qu'elle voyait déposée sur la table. Et tout à coup, sachant à peine ce qu'elle disait, les yeux fixés profondément sur l'obscurité sinistre du ciel, elle se mit à parler. « Oh Dieu ! » dit-elle. « Si vraiment vous êtes là, si vraiment vous existez !» Sa voix fléchit et elle dut se retenir à l'appui de la fenêtre pour ne point tomber. Elle se demanda vaguement pourquoi elle parlait ainsi, car ces mots lui étaient venus brusquement, sans qu'elle se fût rendue compte des motifs qui les lui dictaient. Et elle reprit. « Oh Dieu ! Je sais que vous n'êtes point là, je sais bien que vous n'existez pas. Mais, si vous existiez, je sais aussi ce que je vous dirais. Je vous dirais combien je suis fatiguée, fatiguée et embarrassée. Mais non, tout cela je n'aurais pas besoin de vous le dire, car vous le sauriez d'avance. Je vous dirais donc seulement que je regrette beaucoup tout cela, beaucoup. De tout mon cœur. Et puis, mon Dieu, je vous dirai de veiller sur mon cher Olivier, mais cela va de soi. Et puis aussi sur tous vos pauvres chrétiens. Oh, ils vont avoir tant à souffrir. Et vous, mon Dieu, n'est-ce pas, vous m'entendriez, et vous me comprendriez. Une fois de plus, le roulement colossal et les basses gigantesques d'une myriade de voix qui semblaient s'être un peu rapprochées. Mabel avait toujours détesté les orages, comme aussi les foules bruyantes. Les uns et les autres lui donnaient la migraine. « Allons, » dit-elle, « adieu, adieu à tout. » Puis elle s'assit dans le fauteuil. « L'embouchure, oui, voilà. » Elle était ennuyée du tremblement de ses mains. Deux fois le ressort glissa sur les boucles de ses cheveux. Enfin, toutes les pièces furent fixées en place, et aussitôt, comme si un peu d'air l'avait ravivée, tous ses sens lui revinrent. Elle découvrit qu'elle pouvait respirer le plus facilement du monde. Son souffle n'éprouvait aucune résistance. Quel soulagement de penser qu'il n'y aurait pas à craindre de suffocation. Elle étendit la main gauche et toucha la poignée mobile. La fraîcheur métallique lui rappela par contraste l'atroce et tout à fait insupportable chaleur qui remplissait la chambre de minute en minute. Cette chaleur l'accablait à tel point qu'elle pouvait entendre le battement de son pouls dans ses tempes. De nouveau, elle lâcha la poignée pour pouvoir, de ses deux mains, rejeter le mantelet blanc qu'elle avait mis sur ses épaules au sortir du lit. Oui, maintenant, elle se sentait un peu plus à l'aise. Elle respirait mieux ainsi. De nouveau, ses doigts cherchèrent à tâtons et finirent par trouver la poignée. Mais la sueur gouttait de ses doigts et plusieurs secondes passèrent avant qu'elle pût tourner le bouton. Et puis, celui-ci céda, brusquement. Aussitôt, un doux parfum plein de langueur l'envahit, corps et âme, et s'abattit sur elle comme un coup. Car elle sut tout de suite que c'était le parfum de la mort. Puis la ferme volonté qui l'avait conduite jusque-là s'affirma de nouveau. Et elle posa ses mains sur ses genoux, tranquillement, tout en faisant des aspirations profondes et aisées. Elle avait fermé les yeux au moment de tourner le bouton, mais maintenant elle les rouvrit, curieuse d'observer l'aspect du monde disparaissant. Elle s'était promis de faire cela dès le premier jour. Ainsi, du moins, elle ne perdrait aucun détail de cette unique et suprême expérience. Or, il lui sembla d'abord que rien ne changeait. C'était toujours en face d'elle la cime feuillue du frêne et le toit de plomb. Au-dessus, c'était toujours l'épouvantable ciel noir. Elle nota même un pigeon qui, tout blanc contre le noir du ciel, prit son essor, traversa le cadre de la fenêtre et disparut dès l'instant suivant. Et puis, peu à peu, des choses arrivèrent, des choses comme celle-ci. Elle éprouva une sensation soudaine de légèreté extatique dans tous ses membres. Elle essaya de soulever une main et découvrit qu'elle ne le pouvait plus. Sa main n'était plus à elle. Elle essaya d'abaisser ses yeux de cette tranche roussâtre de ténèbres et s'aperçut que cela également lui était impossible. Alors elle comprit que sa volonté, déjà, avait perdu contact avec son corps, et que le monde qu'elle avait voulu fuir s'était éloigné d'elle, déjà, infiniment. Et cela était bien ce qu'elle avait espéré. Mais ce qui continuait à l'étonner étrangement, c'était que son esprit resta, toujours encore, actif. Il est vrai que le monde qu'elle avait connu s'était désormais soustrait du domaine de sa conscience, comme l'avait fait son corps, sauf toutefois pour ce qui était du sens de l'ouïe, qui avait conservé une acuité singulière. Mais elle gardait assez de mémoire pour se rendre pleinement compte qu'un tel monde existait, qu'il y avait dans ce monde d'autres personnes et que ces personnes allaient à leurs occupations, ne sachant rien de ce qui venait d'arriver. L'esprit de Mabel continuait à se rendre compte de tout cela. Seuls les visages, les noms, les détails des lieux avaient disparu. En fait, elle avait une conscience de soi différente de celle qu'elle avait eue auparavant. Toute différente, mais certes non moins nette et non moins profonde. Il lui semblait qu'elle venait enfin de pénétrer dans le fond de son être, qui, jusqu'alors, ne lui était apparu que comme du dehors, à travers des portes de verre opaques. Et cela lui semblait très nouveau, mais aussi très familier. Elle avait l'impression d'être parvenue à un centre dont elle avait parcouru la circonférence durant toute sa vie. Au même instant, elle découvrit et comprit que son sens de l'ouïe, à son tour, venait de mourir. Et puis une chose surprenante arriva. Mais elle lui sembla que toujours elle avait su que cette chose arriverait, bien que jamais son esprit n'en eût articulé et défini l'idée. Et ce qui arriva, ce fut ceci. Les barrières qui entouraient son âme tombèrent, avec un grand fracas, et elle se sentit entourée d'un espace sans limite, à la fois infini et vivant. Cet espace était vivant comme l'est un corps qui respire et se meut. Il était un et cependant multiple, immatériel et cependant absolument réel, réel d'une réalité que jamais elle n'avait même soupçonnée. Et pourtant, tout cela, encore, pour Mabel, était familier, comme un lieu bien souvent visité dans ses rêves. Et alors, tout à coup, quelque chose qui était à la fois lumière et son, quelque chose qu'elle sut immédiatement être unique, franchit cet espace. Et alors elle vit, et elle comprit.